Bienvenue dans les Clés du Sens, une chronique consacrée à la sémiologie, la science des symboles. Je suis Léa, et ensemble, nous allons explorer un territoire fascinant, celui des signes et des symboles qui nous entourent au quotidien. Elle nous révèle que chaque mot, chaque nom porte en lui une histoire extraordinaire. Et quoi de plus révélateur de nos représentations collectives que les noms que nous donnons aux animaux qui peuplent notre imaginaire? Cette année, je vous propose de plonger dans l'univers captivant de la symbolique animale à travers les noms de mammifères, en nous appuyant sur un ouvrage remarquable d'Henriette Walter et de Pierre Avenas, L'étonnante histoire des noms de mammifères. Car derrière chaque nom se cache bien plus qu'une simple désignation. Nos peurs ancestrales, nos admirations secrètes et nos mythes fondateurs s'y trouvent. Ces noms sont de véritables miroirs de nos sociétés et nous racontent comment nos ancêtres percevaient le monde animal, quelles vertus ou quels dangers ils y projetaient et comment ces représentations continuent de façonner notre langage et notre pensée contemporaine. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique sur la symbolique animale. Et aujourd'hui, je vous propose de retracer l'histoire de celui qui a transformé notre histoire, l'histoire humaine, le cheval. Et oui, Buffon, par exemple, dans son Histoire naturelle, le décrit comme la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite. Un fier et fougueux animal qui partage avec nous les fatigues de la guerre, mais aussi la gloire des combats. Aussi intrépide que son maître, nous dit-il, le cheval voit le péril, mais l'affronte quand même. Et c'est au troisième millénaire avant notre ère que commence cette grande aventure de la domestication, dans laquelle l'homme apprivoise alors le cheval de Przewalski, un animal sauvage que l'on trouve immortalisé sur les parois de certaines grottes. Malheureusement, aujourd'hui, il n'en reste que quelques rares représentants. Mais parlons, comme d'habitude, des mots, car le cheval a marqué nos langues autant que notre histoire. En indo-européen, la forme la plus ancienne est celle qui survit dans l'anglais « mare », la jument, par exemple. On la retrouve d'ailleurs dans notre mot « maréchal », qui désignait à l'origine le serviteur qui s'occupait des chevaux. Mais le nom le plus répandu fut sans doute « equo », une racine indo-européenne que l'on retrouve dans le latin « ecus », vous avez reconnu, et le grec « hippos ». On a aussi le celtique « epo ». Et d'ailleurs, cette dernière forme nous mène directement à Epona, une des rares divinités gauloises dont le culte s'est répandu dans tout l'Empire romain. D'ailleurs, si vous la cherchez, vous la retrouverez sans doute sur les bas-reliefs et les statuettes, où elle apparaît toujours à cheval, ou alors entourée de chevaux, fidèle à l'étymologie de son nom formé sur Epo, le cheval en gaulois. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment equo a-t-il pu donner à la fois ecus en latin et hippos en grec. Alors, c'est vrai que ces mots semblent très différents, mais la réponse se trouve dans l'articulation du son, parce que pour prononcer cou, comme dans équateur, deux points de notre bouche travaillent simultanément, le voile du palais pour le K et les lèvres qui s'arrondissent pour le W. Au fil du temps, certaines populations ont privilégié l'articulation du fond de la gorge et d'autres celle des lèvres. Et si l'on accentue le rapprochement des lèvres, elles finissent par se toucher. Le W devient P. Voilà comment on passe d'écho à hippos. De ces racines anciennes découlent aussi tous nos termes savants, hein, les équidés, bien sûr, cette famille à laquelle appartient le cheval, l'adjectif équin qui qualifie tout ce qui s'y rapporte, et même en médecine, l'équinisme, cette déformation du pied qui ne peut s'appuyer que sur la pointe comme le fait le cheval. Équitation, équestre, ces mots nous sont assez familiers, mais saviez-vous qu'équestre se concurrence avec hippique d'origine grecque et chevaline? On dira une statue équestre, mais un concours hippique et une boucherie chevaline. Du grec hippos, nous avons hérité d'une foule de termes, l'hippiatre est le médecin des chevaux, comme le pédiatre et celui des enfants, l'hippologie en étudie tous les aspects. L'hypophagie concerne leur viande, et puis il y a ces animaux dont le nom évoque aussi le cheval, l'hippopotame, littéralement le cheval du fleuve, l'hippocampe, ce petit poisson dont la tête rappelle celle d'un cheval. Mais oui, vous savez. Curieusement, écus a pratiquement disparu de nos langues modernes, et seules les langues ibériques ont conservé un dérivé pour désigner la jument, yegua en espagnol. Mais une fois prouvé son utilité stratégique et militaire, que l'on retrouve par exemple dans le cavalier et le chevalier, hein, deux doublés qui vont raconter deux histoires, le cavalier monte à cheval, tandis que le chevalier était ce seigneur féodal combattant à cheval, puis ce noble admis dans l'ordre de la chevalerie. Eh bien, après ça, le cheval devient un outil de domination politique, et donc,
un sujet de récit épique. Peu à peu, il va nourrir nombre de légendes. Alors, il y a d'abord Pégase, que vous connaissez, ce cheval ailé, né d'une gorgone. Bellérophon brûlé du désir de le dompter, mais ses efforts ont été vains jusqu'à ce que la déesse Athéna lui apporte un frein enrichi de chaînes d'or. Et Pégase va marquer une transition. On va pouvoir le monter, contrairement à la licorne que même Alexandre le Grand n'a pu chevaucher. Mais d'ailleurs, parlons de Bucéphale, la monture d'Alexandre. Certaines versions le représentent avec une corne de licorne et même une queue de paon. D'autres en font carrément une créature complètement hybride, flanc tacheté, croupe fauve, queue violette, tête de bœuf, yeux de lion et corps de cheval. Sur certaines enluminures, il affronte même des lions et des créatures monstrueuses. Marco Polo lui-même affirmait qu'en Asie centrale, on trouvait des chevaux descendants de Bucéphale, tous nés avec une corne et une étoile sur le front. La mythologie grecque nous offre aussi Xanthe et Balios, les chevaux immortels d'Achille offerts par Poséidon. L'un d'eux est même doué de la parole et annonce d'ailleurs la mort imminente du héros. Et au Moyen-Âge, ma période préférée, le plus fameux des chevaux est sans conteste Bayard, qui porte les quatre fils Aymon, et dans la chanson de geste de Renaud de Montauban. Ce cheval féerique aurait été enfanté par un dragon et une serpente. Capable de s'agrandir pour porter plusieurs cavaliers et de comprendre le langage humain, il incarne vraiment la magie médiévale. Mais tous les chevaux légendaires ne sont pas bienveillants. On a aussi le cheval Gauvin, plutôt dans la Franche-Comté, qui est réputé maléfique. Il se promène le long des cours d'eau, dans les forêts ou les cimetières et tente de tuer ceux qui l'enfourchent en les noyant ou en les précipitant dans un gouffre. Dans la mythologie nordique, si on monte un peu, Sleipnir, le cheval à huit jambes d'Odin, est le plus rapide de tous. Il va galoper sur terre, sur l'eau et même dans les airs. Invincible au combat, il transporte le dieu Odin lors de ses voyages vers le royaume des morts. Et si nous regardons vers la Perse, nous trouverons alors Chabdiz, le cheval du roi Corso. Son nom signifie « minuit » ou « noir de la nuit » et évoque sa robe plutôt sombre. Il est omniprésent dans le patrimoine culturel iranien, tout comme Rashk, le destrier du guerrier géant Rostam, un cheval gigantesque d'un rouge éclatant moucheté de blanc, capable de terrasser des lions et accompagnant son maître dans toutes ses aventures. De notre cheval néolithique au destrier légendaire, de la domestication aux épopées, cet animal a façonné nos langues, nos cultures et nos imaginaires. Fier et fougueux, comme le disait Buffon, il a partagé avec nous bien plus que les fatigues de la guerre. Il a galopé à travers nos rêves et nos mythes, devenant immortel dans nos récits. Alors merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle chronique.
Ainsi, un seul mot nous raconte des millénaires d'histoire humaine. Nos peurs, nos fascinations, nos projections. La prochaine fois, nous explorerons un autre animal et ses secrets linguistiques. En attendant, restez à l'écoute des mots qui vous entourent, ils ont tous une histoire à raconter.